Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, on revient sur ce compromis vendredi dernier en vue d'une coalition gouvernementale en Allemagne entre les deux grands partis sortants, CDU et SPD. La route sera longue, mais déjà on reparle d'une relance européenne franco-allemande, le grand sujet de 2017. Bonjour Enrico Tavede.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Alors, après presque 4 mois d'incertitude et de latence politique, le SPD et la CDU d'Angela Merkel se sont résolus à un nouveau mariage après l'élection qui les a affaiblis au profit de l'extrême droite et des eurosceptiques. Et c'est l'occasion de relancer aussi un autre couple. C'est un nouveau départ pour l'Union européenne, a dit Angela Merkel, qui compte donc bien sur la France, le couple franco-allemand. L'année dernière, la chancelière s'était déjà rapprochée d'Emmanuel Macron, qui prenait aussi sa relance. Les deux se sont rencontrés plusieurs fois avant l'élection fédérale en Allemagne. Les deux dirigeants convergent aujourd'hui en tout cas sur un point, c'est l'Europe des 27, mais aussi les 19 pays de la zone euro et la réforme de ses institutions. Emmanuel Macron aborde frontalement la question financière, peut-être la plus délicate pour l'Allemagne depuis la crise grecque et les suivantes. Alors, Enrico Tavede, en attendant un éventuel gouvernement qui, de toute façon, ne serait pas opérationnel, si on comprend bien, avant mars. Il y aura eu 6 mois de perdu. Quel bilan, quelle perspective peut-être sur cet accord? Qu'est-ce qui a fini par convaincre la CDU et le SPD social-démocrate de retenter l'aventure? Il y a eu une certaine pression européenne, selon vous?
Il y a eu certainement une pression européenne. Il y a eu aussi la pression du président de la République, qui est un social-démocrate, M. Steinmeier, qui a rappelé aux deux grands partis leur responsabilité de ne pas laisser l'Allemagne sans gouvernement stable. Et vu un peu la composition du Bundestag, avec 6 groupes, dont 2 ne peuvent ou ne veulent pas gouverner, 2 groupes sont des extrêmes à gauche et à droite, donc exclus aussi des gouvernements. Et il ne reste que 3 partis, ce qui rétrécit vraiment le champ des coalitions possibles. Et après l'échec de la tentative dite Jamaïque, donc avec CDU, Verts et Libéraux, il ne restait qu'une reconduction d'une grande coalition. Et je pense que le SPD, qui d'abord n'en voulait pas, s'est laissé convaincre justement par ses appels à la responsabilité tant sur le plan allemand que sur le plan européen, en notant que Martin Schulz, ancien président du Parlement européen, connaît très très bien donc les enjeux européens et a insisté sur ces points-là. Donc ça a joué un certain rôle dans ce nouvel accord, et d'ailleurs ce pré-accord de coalition de 28 pages commence par des pages sur l'Europe et un appel très très fort, politiquement très très fort, à un renouveau et à une réforme européenne, donc une vraie réponse à Emmanuel Macron.
En tout cas, un message clair à l'Europe avec cet accord pourtant national et avec un enjeu très très national, vous l'avez souligné. À quel point est-ce que c'est un nouveau départ pour l'Europe, en tout cas un nouveau rôle européen pour l'Allemagne, puisqu'il est question dans cet accord des États-Unis, de la Chine? C'était déjà les considérations qu'avait Angela Merkel, qui alertait sur les ambitions chinoises l'année dernière, ou qui s'était positionnée pour que les Européens reprennent leur destin en main, disait-elle, face à Donald Trump. Finalement, elle n'a pas changé de position là-dessus.
Non, elle n'a pas vraiment changé de position. Cela dit, je pense que ces dernières années, l'Allemagne, elle jouait la carte européenne, certes, mais elle était un peu, souvent, un peu en retrait, où elle semblait l'être. Or, les événements internationaux, comme l'apparition de M. Trump et le changement de la politique américaine, la menace terroriste, les incertitudes sur Poutine et compagnie, tout cela a amené Angela Merkel à reconnaître d'une manière très très forte, plus forte que jamais, que désormais on ne pouvait plus se fier aux seuls alliés de l'Europe, et alors que désormais l'Europe devait prendre son destin en ses propres mains. C'est une certaine nouveauté, alors que l'Allemagne avait tendance, et traditionnellement, à s'appuyer sur l'alliance transatlantique et sur un partenaire fort américain. Bon, on a compris que ce n'est plus possible, donc d'où une forte poussée pour une Europe qui prend son destin en main.
Et justement, est-ce que la relance franco-allemande, du côté franco-allemand, vous semble si solide et si prometteuse aujourd'hui, sachant que l'Europe a été un des points qui a affaibli la CDU et qui a risqué de faire perdre le pouvoir à Angela Merkel?
Oui, d'une certaine manière, oui. Bon, il faut dire que là encore, ces dernières années n'étaient pas vraiment propices à un très fort partenariat franco-allemand. Bon, le président Hollande, un peu en fin de mandat, politiquement très très affaibli, a fait clocher un petit peu le couple franco-allemand. Et quand un des deux partenaires n'est pas en forme, l'autre ne l'est pas non plus. Bon, avec l'élection d'Emmanuel Macron, la donne a vraiment fondamentalement changé. On a dit, bah, voilà maintenant, on peut recommencer. Bon, les élections allemandes, avec ce suspense sur la formation d'un gouvernement très très difficile, nous a fait perdre du temps. Mais une fois un nouveau gouvernement mis en place, je pense qu'il y a une vraie nouvelle chance pour un couple franco-allemand plus fort, plus équilibré et avec une vraie volonté de changer les choses, même si au point de départ, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a une nouvelle volonté commune.
Et justement, parmi ces questions sur lesquelles il peut y avoir convergence et divergence, c'est la question économique, je le disais, celle de la zone euro, de l'Eurogroupe, primordiale et peut-être la plus délicate. En tout cas, le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, disait la semaine dernière qu'il y avait une opportunité unique aujourd'hui pour réformer la zone euro. Ça vous semble juste?
Bah, disons qu'au moins il y a une ouverture des nouveaux partenaires allemands à débattre de toutes les propositions sur place. Ils disent que le nouveau gouvernement va discuter ouvertement donc les propositions tant d'Emmanuel Macron que du président Juncker ou d'autres. Cela dit, le contrat de gouvernement est très peu disert sur la réforme de la zone euro. Il est vrai que là, on n'est pas tout à fait d'accord avec la proposition Macron. Donc, budget de la zone euro, bon, il y a certains passages dans le contrat allemand qui disent « oui, on est prêt à payer plus pour l'Europe, on est prêt à investir davantage, donc on est prêt à mettre davantage dans les budgets européens ». Mais de là à dire « il faut un budget de la zone euro », c'est un pas que ne franchissent pas les partenaires allemands pour l'instant.
Oui,
et puis, il y a une autre proposition allemande, hein, transformer le mécanisme européen de stabilité en espèce de fonds monétaire européen qui prendra en charge un peu la surveillance de la politique budgétaire des pays membres et donc qui serait ancré dans les traités européens. Donc là encore, je pense que ça n'a pas l'air de plaire trop à la France. Donc il reste des zones de divergence, mais bon, ce qui est important, c'est la nouvelle volonté des deux partenaires d'en débattre.
Si on parle des points de convergence, lesquels seraient encore possibles? On avait vu Emmanuel Macron, Angela Merkel évoquer la taxation des GAFA à Tallinn il y a quelques mois. Il y a la question de l'Europe de la défense aussi, à laquelle devait participer l'Allemagne. Ces sujets aussi ont été mis en attente alors pendant tout ce temps-là.
Oui, mais ils sont repris maintenant dans le contrat de gouvernement. Je pense que c'est justement que côté allemand, on s'est rendu compte que il faut une Europe donc de la défense. Il faut une Europe qui agisse davantage en matière de sécurité, mais aussi en matière de politique de partenariat, notamment avec l'Afrique. Il faut une politique d'immigration, une politique de réfugiés européenne, peut-être aussi une politique de la protection des frontières européennes. Donc tout ça, ça va quand même dans le sens, si j'ai bien compris, des propositions d'Emmanuel Macron. Et donc, il y a quand même beaucoup de convergences. Et encore une fois, les divergences qui existent sur le plan économique et monétaire notamment, ne sont pas des divergences éternelles, quoi. Donc, s'il y a une nouvelle prédisposition des deux partenaires, une nouvelle volonté commune de dépasser ces divergences, bon, tout sera permis. Ça sera certainement des compromis, mais enfin, ça n'empêchera pas d'aller plus loin sur ce plan aussi. L'important était de donner le là. Il est donné parce que cette volonté européenne est vraiment placée en première place de tout le contrat. Et je pense qu'il y a cette perspective qu'il fallait mettre en œuvre parce que sur tous les détails, il est trop tôt d'en parler. D'autant plus que, bon, on connaît la musique. Au début, il y a souvent des divergences franco-allemandes. Et l'important, c'est la bonne volonté politique de bien négocier ces divergences pour les convertir en convergence et en compromis quand c'est possible. Quand on aura ce gouvernement-là, et je crois que cette volonté commune sera là et pourra s'épanouir. Je pense que ce message est plus important que les détails.
Mais peut-être que, comme le disait Emmanuel Macron, l'indicible allemand, c'est le transfert de financement. L'indicible français, c'est le changement de traité. On verra tout ça. Juste un dernier point très rapidement, mais dans cette Europe aussi que Emmanuel Macron a souhaité plusieurs fois à deux vitesses, quelle place pourrait tenir l'Allemagne et est-ce qu'elle serait partante pour obtenir une Europe différenciée, disons, on l'a déjà vu sur la question du dumping social.
En février 2017, Angela Merkel a pour la première fois clairement énoncé aussi le principe d'une Europe à plusieurs vitesses, et donc elle est favorable à tout cela, et le contrat de coalition reprend cette formule de dire, voilà, il y aura certains domaines où peut-être certains pays membres veulent aller plus loin et plus rapidement, et ça devrait être possible. Donc je pense qu'il y a un préjugé favorable à cette proposition d'Europe à plusieurs vitesses.
Oui, et ce fameux cœur de l'Europe qu'évoquait Emmanuel Macron, on en reparlera aussi. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, Enrico Tavede, chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous rendre sur la page et le Twitter des Enjeux Internationaux, podcaster tant que vous voulez. Demain, on joindra Jean-Pierre Cabestan, qui nous parlera depuis Hong Kong du mouvement des parapluies. Il y a toujours des suites judiciaires. Plus largement, on se demandera ce que veut la Chine, qui n'en a pas fini apparemment avec Hong Kong.